Le silence des petits papiers, chapitre 51. Il faut que je vous dise. C'est ainsi que Josette commença son long monologue face à Jean-Christophe, inerte. Elle ponctuait quelques phrases à l'identique, se soulageant d'un fardeau semblant bien lourd pour elle. Les haines générationnelles revenaient comme un leitmotiv. C'était la clé de ses propos. Elle avait langui de voir arriver ce jour, d'être seule avec celui qui s'approcha le plus près de la vérité. Elle ne pouvait plus reculer. L'occasion se présentait plus rapidement que prévu. Elle prit son courage à deux mains et s'installa dans le fauteuil habituellement occupé par Hélène. Gênée par l'immobilisme de son voisin, elle prit vite la mesure de la situation. Dans son cerveau blessé, la voix de la fille du père Léonard arrivait telle une symphonie. Une symphonie de mots, joué tantôt moderato, tantôt fortissimo. C'était comme si chaque instrument de l'orchestre se dévouait pour moduler l'intensité du récit. Il comprenait tout, analysait tout, mais n'arrivait pas à esquisser le moindre battement de paupières pour signifier sa compréhension, son approbation ou son désappointement. Cet état de fait le touchait au plus profond de son âme. Il espérait s'en sortir un jour et expliquer aux autres la vraie signification de la formule « être en transit ». Jean-Christophe avait perdu la notion du temps. Il ne savait pas depuis combien de temps sa garde malade soliloquait. Un bon moment à coup sûr. Les révélations se bousculaient dans sa tête. Il aurait voulu crier. Il aurait voulu appuyer sur la touche pause. Imperturbable, elle continuait à débiter l'histoire. Celle avec un tout petit H. Entre les haines générationnelles et les « il faut que je vous dise », elle glissait des anecdotes corroborant la majeure partie de ses découvertes. L'accident s'était produit un peu trop tôt. Il aurait aimé disposer du laps de temps nécessaire à la résolution de l'énigme. Le maître du destin en avait décidé autrement. « Il faut que je vous dise, c'est moi qui vous ai envoyé la lettre concernant les coupures de journaux. Je l'ai fait à l'insu du père Léonard. Il n'aurait pas approuvé. Ce n'est pas bien de dire ce qu'on a sur le cœur de cette manière. Je vais vous expliquer la vérité. Ma vérité, aurait dit Léonard. » Depuis son lit d'infortune, Jean-Christophe savait que l'expéditeur de l'enveloppe au petit papier était une expéditrice. Le découpage des articles ne laissait planer aucun doute. Seule une couturière pouvait s'être servie de tels ciseaux. Dans un premier temps, il n'avait pas prêté attention à ce détail. Ça ressemblait au crantage des vieilles photos en noir et blanc. Josette possédait cet outil et s'en servait lorsqu'elle confectionnait des vêtements. Chaque fait relate l'histoire, celle des Duraz, des Pélissier, des Pigliotti, de ma mère et de mon père. C'est aussi et surtout la mienne. Rien de tout cela ne se serait déroulé ainsi si Timothée n'avait pas eu l'ouverture de braguette aussi preste. Un cochon ne pouvait engendrer que des porcs ou des truies. Il s'est comporté comme un patriarche de droit divin. Chacune et chacun a vécu un enfer sous sa coupe. Non content d'avoir fait subir le martyre à sa fille Thérèse et à sa belle-fille Katharina, il est l'assassin d'Amélie Bellevaux, avec qui il eut une relation adultérine. C'est lui qui avait coulé une dalle en béton dans la grange. C'était une pratique inusitée à cette époque. Tout cela, je le tiens de mon père, qui a reçu ses confidences en confession. Il n'a jamais voulu me révéler l'identité de celui qui lui révéla ses atrocités. Il tenait beaucoup à respecter le secret du confessionnal. Josette procédait par ordre chronologique. Jean-Christophe avait subodoré le lien avec Timothée Duraz. Il ne comprenait pas le sens de la démarche de la narratrice. Quel but réel avait-elle poursuivi? C'était si loin tout ça. Il se souvint de leur conversation après la disparition de Léonard. Elle parla sans détour de son unique amour, Aldo Pigliotti. Il pensa qu'elle réglait ses comptes en souvenir de son beau brun, mort trop tôt. Elle s'arrêtait de temps en temps pour vérifier si tout allait bien dans le lit. Le moniteur respiratoire débitait l'oxygène au travers des tuyaux bien ajustés. Il ne pouvait en être autrement. La paralysie du malade l'empêchait de débrancher son appareillage. « Il faut que je vous dise, ce qu'il en est concernant la voiture embourbée dans le marais. C'est un descendant Pigliotti qui était au volant, celui qui n'a pas été retrouvé dans l'éboulement. Il était venu en repérage de la grange d'Amédée. Je sais ce qu'il est advenu ce soir-là. Ils étaient trois, les clans Montaldi et Pigliotti étaient alliés à cette époque. Malheureusement, chaque camp a cru que l'autre lui avait fait une entourloupe. D'où les autres coupures. Ça a tiré dans tous les sens, jusqu'à la découverte de la voiture sous des tonnes de rochers. S'il avait pu s'exprimer, Jean-Christophe aurait bondi. Il avait cerné la vérité au plus près. Peut-être qu'il aurait froncé le sourcil. Allait-elle lui révéler l'identité réelle du troisième homme? Cher ami, nous allons en rester là pour aujourd'hui, si vous le voulez bien. Excusez-moi pour ce trait d'humour involontaire, je vous raconterai la suite un autre jour. Hélène ne va pas tarder, je ne veux pas qu'elle entende cette conversation. Il était fatigué. Il aurait bien aimé connaître la suite de l'histoire. Y aurait-il une prochaine fois ?